Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast Le Lien, le podcast qui décrypte les pratiques du bien-être. Je suis Anne, je suis naturopathe et passionnée de santé holistique, et dans ce podcast, je reçois chaque mois un ou une invitée qui me parle de sa pratique. Naturopathie, sophrologie, hypnose, etc. Le but est de comprendre exactement ce que sont ces pratiques et ce qu'elles peuvent apporter dans votre vie. Bonne écoute! Dans la première saison, j'ai reçu Marie Lecomte pour parler d'hypnose ericksonienne. Aujourd'hui, je reçois Sophie Marchès, hypnothérapeute à Lyon, pour parler d'un autre type d'hypnose, l'hypnose humaniste. Encore une fois, une rencontre passionnante que je suis ravie de vous partager. Bonne écoute. Bonjour Sophie.
Bonjour Anne.
Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'hypnose. Donc, on en a déjà parlé dans la saison 1 du podcast, mais avec toi, on va parler d'un type différent d'hypnose. On va parler plutôt d'hypnose humaniste. Mais déjà, je vais commencer par te demander de te présenter un peu ton parcours, ce qui t'a amené vers l'hypnose, ce qui t'a motivé à faire ça.
Bah déjà, merci de me recevoir et de me donner la chance de parler et d'expliquer un petit peu ce qu'est l'hypnose et l'hypnose humaniste d'autant plus. Donc moi, je m'appelle Sophie Marchès, je suis hypnothérapeute. Mon parcours, très tôt, je pense vers 14-15 ans, je me projetais déjà en fait dans un cabinet où la parole libérait les souffrances en fait. De formation initiale, j'ai une licence de psychologie parce que j'avais toujours cette envie d'aider les autres. Mais à ce moment-là, la psychologie était un milieu qui était assez bouché. Et en fait, je pense que c'était pas l'outil qu'il me fallait. J'ai dévié dans le commerce, dans l'immobilier plus précisément, dont je suis sortie au bout de 3 ans assez fatiguée et un peu perdue dans ce que je voulais pour ma vie. J'ai intégré à ce moment-là une association qui est spécialisée dans la reconversion professionnelle des cadres et des jeunes diplômés. Un peu perdu comme moi je l'étais, parce que j'avais diplôme en psycho, diplôme en commerce, diplôme en immobilier. Enfin, pour moi, rien de tout ça n'allait ensemble. Et donc, à ce moment-là, j'ai travaillé sur un projet professionnel qui a du sens, en fait. Je voulais que ma vie professionnelle ait un sens. Et un matin, dans cette association, je formule exactement ce que je veux et je dis « je veux améliorer le monde ». Donc à ma petite échelle bien sûr, mais mon idée était d'améliorer le monde. Et à côté de ça, je découvre en perso l'hypnose pendant une psychothérapie et je tombe complètement amoureuse de cette méthode qui, en une séance, achève une psychothérapie déjà entamée depuis 3 ans sur des sujets qui étaient réglés en conscience et qui avaient simplement besoin de déclic en fait et d'être ancrés dans le concret. Donc, là, ma nouvelle vie commence, ma vie d'aujourd'hui, ma vie sur mesure. Et donc, je montre me former à l'hypnose à Paris, à l'IFHE, aux côtés d'Olivier Locquer, qui est donc avec sa femme Patricia D'Angeli, le fondateur de l'hypnose humaniste. Et donc, cette formation durera pendant 1 an. Donc, je serai diplômée d'hypnose ericksonienne, nouvelle hypnose humaniste et PNL. Et aujourd'hui, donc, je reçois à mon cabinet à Lyon, dans le 6e. J'anime des conférences, des ateliers, et voilà mon parcours.
C'est un très beau parcours. Et donc, tu disais que tu étais diplômée de plusieurs types d'hypnose. Dans le premier épisode sur l'hypnose, on avait parlé d'hypnose ericksonienne avec Marie. Est-ce que tu peux redéfinir un peu l'hypnose pour ceux qui auraient loupé le premier épisode et donner la différence entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnose humaniste?
Bien sûr. Donc, j'ai écouté l'épisode enregistré avec Marie Lecomte, qui est extrêmement complet et très pointu techniquement. C'est vraiment super. Je pense que Marie est une super formatrice. Donc, je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. L'outil qu'est l'hypnose, en fait, c'est un outil de communication entre la conscience. Donc, la conscience, c'est ce qui entend ces mots à l'heure actuelle, pendant que vous écoutez ce podcast. C'est ce que vous avez consciemment en vous, ce à quoi vous avez accès. Et donc, l'hypnose est un outil de communication entre cette conscience et votre inconscient. Et en fait, votre inconscient, c'est un peu votre ange gardien qui est toujours à vos côtés et qui en sait beaucoup sur vous, notamment sur vos souvenirs positifs, négatifs, des traumas. Donc, l'inconscient détient beaucoup, beaucoup de ressources. Et donc, l'hypnose est un outil qui permet d'accéder à l'inconscient pour ramener ses ressources en conscience. Comme ça a été dit par Marie Lecomte dans le précédent épisode, l'hypnose, c'est une forme de thérapie brève. Elle est orientée sur les solutions, c'est-à-dire que contrairement aux thérapies longues comme la psychothérapie ou la psychanalyse, les thérapies qu'on appelle brèves, elles vont être orientées sur le comment et les solutions concrètes, plutôt que sur le pourquoi, c'est-à-dire comment je vais faire pour aller mieux, plutôt que sur le pourquoi je vais mal. Alors bien entendu, les causes, on peut les aborder si cela est important pour le patient. En revanche, elles vont pas être au centre de la thérapie en hypnose. Les thérapies brèves, elles visent à soigner de manière efficace, sur une durée relativement courte et seulement en quelques séances. Donc en gros, si on résume, l'hypnose, c'est une thérapie brève de courte durée portée sur le résultat, le changement, l'apprentissage et l'atteinte d'un objectif. Et si réellement les causes sont importantes pour la personne que l'on accompagne, on peut aller les voir, mais on conseillera également peut-être de s'orienter sur une psychothérapie ou une psychanalyse, ce qui viendra tout à fait compléter le travail qu'on fera nous en hypnose. Ensuite, donc la différence entre l'hypnose humaniste et l'hypnose ericksonienne qui a été vue dans le précédent épisode. Alors, Marie parle de d'hypnose classique, d'hypnose ericksonienne et d'hypnose conversationnelle. Et elle a tout à fait raison. Moi, je ne vais pas parler d'hypnose conversationnelle, elle l'a très bien expliqué. Pour moi, il y a l'hypnose classique, l'hypnose ericksonienne et l'hypnose humaniste. Donc, l'hypnose classique, c'est le milieu du spectacle. Voilà, c'est une hypnose qui va être plus directive. C'est ces spectacles que l'on voit de Mesmer ou d'autres personnes où les gens, en fait, sont amenés à faire un petit peu ce qu'on leur dit. La visée est vraiment en fait d'impressionner les gens. Ça fait d'ailleurs pas mal de tort à notre profession, nous qui cherchons à soigner via cet outil-là. Donc il y a aussi beaucoup de travail de déconstruction par rapport à ça, mais en tout cas l'hypnose classique, c'est ça. Elle fonctionne rapidement et sur des personnes qu'on va appeler suggestives. Donc c'est des personnes qui vont être quand même assez aptes à rentrer en ce qu'on appelle en transe hypnotique rapidement. Et en thérapie, mais c'est qu'on va s'en servir pour les personnes qui veulent rentrer rapidement en transe ou dans une transe assez profonde. L'hypnose ericksonienne, elle a été très bien expliquée au précédent épisode. C'est une approche qui a été développée par Milton Erickson. L'hypnose ericksonienne, c'est réellement l'art du langage, en fait. C'est comment je vais placer des suggestions, différentes choses qui vont permettre à mon patient, en fait, d'avancer. L'hypnose ericksonienne, le patient est plus passif. C'est majoritairement l'hypnothérapeute qui va amener son patient là où il a envie de l'amener. Le patient intervient pendant la séance ou pas, mais en tout cas, il est plus passif. C'est une hypnose qui est plus complexe, en fait, à pratiquer et à détenir. C'est vraiment l'art du langage, quoi. Et donc, l'hypnose humaniste, je pense que le mieux, c'est, Anne, de te mettre un petit peu en condition pour que tu comprennes ce que c'est l'hypnose humaniste. L'hypnose humaniste, en fait, c'est imaginez que vous passiez une super bonne soirée avec de très bons amis. Voilà, vous discutez de la vie, vous racontez les dernières anecdotes que vous avez à vous dire, vous parlez de ce qui se passe dans votre quartier, dans votre pays, vous parlez de vos loisirs, de vos envies, vous débattez d'idées philosophiques si ça peut vous intéresser. Bref, vous refaites le monde. Et c'est comme une sorte de tourbillon, c'est super agréable, ça vous emporte. L'air est doux, les couleurs sont belles. Votre esprit, il est comme enflammé. Il enregistre tout ce qu'il se passe parce que cette soirée est passionnante, en fait. Elle vous coupe pendant un temps de votre vie quotidienne. Le temps est comme suspendu. Il est un peu tard, mais vous vous en rendez même pas compte, en fait. Vous êtes tellement enthousiasmé par la discussion et vous vous sentez bien, en pleine forme. Vous ne ressentez aucune fatigue, bien au contraire, parce que vous avez tellement d'idées à partager. C'est tellement stimulant. C'est un peu comme si tous ces amis, tous ces cerveaux autour de la table s'étaient connectés en un seul grand esprit, avec plus d'idées, plus de solutions, plus de possibilités et plus de créativité que ce qu'on peut avoir à la normale. Donc tout le monde pétille, c'est léger, c'est dynamique, c'est agréable. Et en fait, eh bien ça, on peut dire que c'est ce que l'on ressent en état d'hypnose humaniste. En fait, l'état d'hypnose humaniste, c'est un état augmenté de conscience. En hypnose ericksonienne, on va être en état modifié de conscience. En hypnose humaniste, on va être en état augmenté de conscience. Donc, quand en hypnose ericksonienne, on se replie sur soi, on va plonger à l'intérieur de soi pour aller trouver les solutions, on est absorbé, mais de manière plutôt passive. on peut se sentir loin, un peu lourd, un peu engourdi parfois. Et c'est aussi super agréable. Parfois, on peut revenir un peu pâteux, comme si on avait fait une sieste un petit peu trop longue. On laisse l'extérieur s'éloigner. En hypnose humaniste, on est actif tout au long de la séance. Notre état de conscience est augmenté, comme pendant cette soirée où tout est tellement génial qu'on se connecte littéralement à l'univers, aux autres, à nos pensées, etc. On est donc actif et on ne ressort pas de cet état. En fait, on n'a pas besoin de revenir, on n'a pas besoin d'en ressortir parce qu'on est réellement bien présent et éveillé. C'est ça l'état augmenté de conscience. Pendant une séance d'hypnose humaniste, le patient va échanger avec nous. Il va nous répondre, on va l'interroger et la personne est capable en fait de prendre les commandes des phénomènes hypnotiques qui vont se passer pour elle. Donc, elle est capable de les utiliser tout en étant guidée, bien évidemment, par l'hypnothérapeute. Voilà la différence.
Quand tu dis état augmenté de conscience, est-ce qu'il y a un rapport avec la pleine conscience comme en méditation ou...
Ça peut s'en rapprocher, mais après, l'état d'hypnose en général, qu'il soit modifié ou augmenté, a quand même des liens avec la méditation, bien évidemment. Après, non, on n'est pas en état de méditation, hein, on est quand même dans un état de grande connexion à soi. Simplement, voilà, on peut être actif, en fait, sur ce qui se passe. C'est-à-dire que pendant la séance, l'hypnothérapeute va demander à son patient de chercher avec lui les solutions. Donc, ça peut être de la symbolique, d'aller chercher de la symbolique sur le mal-être et de traiter cette symbolique en parole en agissant directement sur sa problématique.
C'est intéressant, ça me rend curieuse. Et du coup, toi, en cabinet, tu reçois plutôt quel type de personnes sur l'hypnose humaniste et en général ?
Alors moi, au cabinet, je pratique, donc je suis très très fan de l'hypnose humaniste, d'autant qu'effectivement, le directeur de l'école dans laquelle je me suis formée a fondé cette méthode, donc on a été beaucoup baignés dedans. Pour autant, j'ai d'abord appris l'hypnose ericksonienne parce que pour moi, c'était quand même la base de l'hypnose. Donc, je suis formée aujourd'hui en nouvelle hypnose, donc qui est un mélange un petit peu de toutes ces hypnoses-là, hypnose ericksonienne, hypnose humaniste, mais aussi je suis formée en PNL. Donc je reçois je reçois quelqu'un et en fonction de ses besoins, je décide de quelle méthode je vais employer avec son accord, bien évidemment. En pratique, tous les domaines de la vie peuvent bénéficier de l'hypnose, parce qu'en fait, l'hypnose c'est une clé d'accès à nos capacités naturelles, en fait, à ce qu'on a déjà en nous. La seule contre-indication, alors après, il y a deux écoles, mais la seule contre-indication, selon moi, ce sont les personnes qui sont diagnostiquées comme par la psychiatrie comme étant déjà ce qu'on va appeler dissociées. Ça présente quand même des indications qui sont discutables. Donc, les personnes qui sont dissociées vont être les personnes qui sont paranoïaques, psychopathes, pervers, etc. Pourquoi on est un peu fébrile à les prendre en hypnose? Parce que en hypnose, notamment ericksonienne, on dissocie déjà la personne. Donc, si la personne est déjà dissociée de base, ça a tendance à la faire décompenser et donc à augmenter, à aggraver les symptômes. Donc, en fait, pour répondre à ta question, les types de personnes que je reçois en cabinet, les types de problématiques, c'est pas tant de savoir dans quel cas appliquer l'hypnose, en fait, mais plutôt comment appliquer l'hypnose dans le cas du patient qui est face à moi. Donc, en fait, on peut recevoir beaucoup de sujets. L'hypnothérapeute, c'est un guide dans tous les sujets. La condition, c'est bien évidemment que la motivation soit réelle. Après, donc moi, je reçois beaucoup pour des addictions. Je traite beaucoup, beaucoup d'addictions, qu'elles soient à des produits ou à des comportements, donc addictions aux drogues, aux jeux, à l'alcool, au sexe, etc. Et le cœur vraiment de mon travail, ce que j'aime faire et ce qui est vraiment le cœur de mon travail, c'est la périnatalité, donc l'accompagnement des femmes à la grossesse, donc dès les premiers mois de grossesse, à l'accouchement sous hypnose avec ou sans péridurale. Et puis par la suite, durant les semaines qui suivent la naissance, donc ça peut aller de l'inclusion du nouveau-né dans une famille déjà constituée à l'allaitement, à toutes les problématiques qui peuvent survenir et parfois surgir, je dirais même, lors d'une grossesse. Donc, il n'y a pas de cas particulier, mais je traite beaucoup d'addictions et mon cœur de métier est la périnatalité et les femmes.
Ça fait deux types de publics vraiment très variés.
Oui, mais... tu sais, on n'en vient jamais à faire ce métier pour rien. Donc, on traite souvent des problématiques et tu le sais très bien. On traite souvent des problématiques qui nous ont touchés ou ont touché des personnes qui nous sont proches.
Ça doit être vraiment enrichissant de travailler sur ces deux axes, autant professionnellement que personnellement. Et du coup, concrètement, comment se déroule un rendez-vous avec toi ?
On a, donc, comme Marie Lecomte l'a aussi très justement expliqué dans son épisode, on a une première phase qu'on va appeler l'anamnèse. Donc, en fait, dans tous les cas, la personne vient nous voir avec un symptôme. Mais on va s'intéresser à elle dans son intégralité. En fait, moi, mon objectif, c'est de réussir à détecter les enjeux, en fait, qui vont se cacher derrière le symptôme. Le but, c'est de réussir à élaborer un plan, un protocole de soins pour que le symptôme puisse être dépassé, mais aussi pour travailler sur des sujets qui sont sous-jacents. Donc, l'objectif de cette première partie de séance qui est l'anamnèse, c'est vraiment de faire connaissance, d'expliquer, que le patient explique la raison pour laquelle il est là, d'expliquer, moi, ma manière de travailler, comment j'envisage les choses, de préparer notre protocole de soins, qu'il soit sur une séance ou sur plusieurs, et de se mettre d'accord, en tout cas, sur un objectif et sur... si tu veux, de se mettre d'accord sur un but et des différents objectifs qui vont nous permettre d'atteindre ce but. Alors, il est très rare pour moi que je fasse de l'hypnose à la première séance. Pourquoi ? Parce que j'aime vraiment prendre le temps à la première séance, généralement qui dure une bonne heure et demie. J'aime prendre le temps de découvrir la personne et vraiment de découvrir tous les enjeux visibles ou cachés pour, si tu veux, établir un bon protocole de soins. Pourquoi ? Parce que je peux traiter directement le symptôme avec laquelle la personne vient, mais la réalité, c'est que si ce symptôme n'est qu'une conséquence d'une cause et que je ne vais pas directement à la cause, la personne risque de devoir revenir régulièrement, ce qui n'est pas le but. Donc, cette première partie d'anamnèse, je la fais régulièrement sur la première séance en entier. Après, parfois, on peut enchaîner directement. Donc, les séances d'hypnose ensuite se mettent en place. Donc, la personne va s'installer dans un fauteuil face à moi et avec le son de ma voix, en fait, je vais la guider. Donc, moi, je mets un petit peu de musique, un fond musical pour permettre à la personne vraiment de couper avec l'extérieur et de réussir vraiment à rentrer dans un état de relaxation. Et là se passe la partie de l'induction, en fait. L'induction, c'est ce qui te permet de rentrer en transe hypnotique. Donc, que ce soit par l'hypnose ericksonienne, l'hypnose humaniste, de l'hypnose classique, enfin, on utilise différentes choses qui permettent à la personne, ou sur l'hypnose ericksonienne, d'envoyer sa conscience en voyage, que ce soit à Bali, à la montagne, où tu veux, pour que nous, on ait un accès direct à son inconscient et qu'on puisse parler directement avec, ou bien sur l'hypnose humaniste, voilà, de mettre la personne réellement en état augmenté de conscience et qu'elle puisse vraiment travailler avec nous en dépassant toutes ses peurs et tout ce qui la bloque consciemment. Ensuite, on attaque le cœur de séance. Donc là, eh bien, on va dérouler un protocole de soins en fonction de ce qu'on a ciblé comme besoin. Donc, il peut y avoir des suggestions, on va suggérer certaines choses à la personne, il peut y avoir des métaphores, on peut travailler avec la personne ou simplement la diriger. Et donc là, c'est vraiment le cœur de séance et c'est là que tout le travail va s'effectuer. À la fin de ce protocole, on va faire revenir tranquillement la personne, donc revenir si elle est en hypnose ericksonienne ou simplement ouvrir les yeux si elle est en hypnose humaniste et puis bien échanger sur la séance, permettre à la personne de se reconnecter un petit peu, de revenir à l'ici et maintenant et on va échanger un petit peu sur ce qui s'est passé. Et puis sur une dernière partie, je fais beaucoup ce qu'on appelle, nous, dans notre métier, des prescriptions de tâches. Donc en fait, ce sont des tâches que l'on donne au patient ou à la patiente à faire en fait hors des consultations pour compléter le travail qu'on a fait en séance et l'ancrer en fait dans sa vie quotidienne pour que le cabinet soit effectivement un endroit où on déblaye tout ce qu'il y a à déblayer, mais que la vie réelle soit aussi un endroit où après que le terrain ait été déblayé, eh bien les fleurs commencent tranquillement à pousser. Et en fait, ça permet aussi de conscientiser tout ce qui s'est passer en séance et de continuer à avancer également en dehors puisque le but est quand même de rendre la personne complètement autonome.
Et du coup, en hypnose humaniste, concrètement, la personne parle avec toi pendant la séance ?
Oui, très souvent en hypnose humaniste, la personne parle pour la simple et bonne raison qu'en fait, on ne veut pas qu'elle se dissocie comme en hypnose ericksonienne. En hypnose ericksonienne, on va effectivement dissocier la personne. En hypnose humaniste, on veut que la personne soit à la fois dans ce qu'on est en train de lui raconter et à la fois présente avec nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle est bien ici et maintenant dans le fauteuil face à nous, parce qu'il faut quand même qu'elle soit consciente de ce qui est en train de se passer, qu'elle puisse être actrice de la séance. Donc très souvent, on va faire parler la personne déjà pour ça, pour lui permettre d'être quand même ici et maintenant avec nous, mais également aussi parce qu'en hypnose humaniste, on fait beaucoup de symbolique, si tu veux. Par exemple, sur une problématique, on va demander à la personne de nous symboliser à quoi ressemble cette douleur. Ça peut être un monstre, ça peut être une femme hyper méchante, ça peut être un sorcier, ça peut être différentes choses. Et en fait, la description que la personne nous amène nous permet d'aller travailler plus en profondeur sur ce que ça veut dire. Il y a tout un travail pour nous de symbolique, que ça soit tant sur les endroits où se situent les douleurs que sur comment l'inconscient va symboliser ça, en fait. Qu'est-ce qu'il va mettre dessus et à quoi ça va ressembler. Donc, on fait parler la personne pour nous décrire ça. Et ça nous permet de rester ce qu'on appelle en synchronisation avec la personne, c'est-à-dire d'être sûr qu'elle est bien au même stade que nous dans le protocole, qu'elle avance à la bonne vitesse, sa vitesse à elle, mais qu'on soit en tout cas sur la même vitesse. Voilà.
Ok. Et en général, sur ce type d'hypnose, tu comptes combien de séances ? Je suppose que c'est variable selon les problématiques, mais approximativement.
La réalité, c'est que cette question, moi, je n'y réponds pas, en fait, parce que j'ai toujours un peu une idée du nombre de séances d'hypnose qu'il faudra pour permettre à la personne d'aller mieux, mais ça ne reste qu'une idée, je ne détiens pas la vérité, et des personnes peuvent avancer bien plus vite que ce qu'on pensait à la base, ou bien moins vite parce qu'à un moment donné, il y a d'autres blocages. Il n'y a pas de réponse à cette question, et l'intérêt également de ce métier, c'est le cas par cas. C'est-à-dire que personne n'arrive avec les mêmes problématiques, les mêmes capacités d'adaptation, de changement, la même connaissance de soi. Une personne qui a fait une psychothérapie va peut-être avancer différemment. Voilà. Donc, je ne peux pas te donner de réponse à cette question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'hypnose humaniste ou ericksonienne reste tout de même une thérapie dite brève. Donc, sur une seule et même problématique, si on dépasse une dizaine de séances, bon, il faut quand même, à mon avis, revoir le protocole qui a été établi. 10 séances, ça me paraît déjà être quand même une très, très bonne thérapie.
Ok. Et du coup, comment ça se passe pour toi, une journée ou une semaine type, que ce soit dans ton métier ou est-ce que tu gardes aussi du temps pour toi ? Enfin, comment tu t'organises, quoi, en gros ?
Alors, bah ça aussi, tu vois, c'est ce que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de semaine type. Il n'y a pas de journée type, bon, parfois si, mais il n'y a pas de semaine type. Donc, je répartis en fait mes semaines. Donc, moi, je suis au cabinet, donc je reçois en consultation en présentiel le lundi, mardi et jeudi. Je pense à mon avis, dans pas longtemps, également le mercredi. Mais du lundi, mardi, jeudi, je suis au cabinet. Mercredi, je réserve souvent voilà, les consultations en visio ou l'enregistrement de podcasts super cool comme on est en train de faire. Et le vendredi est une journée pour moi en général, voilà. Je m'occupe de moi, je fais mes courses, enfin tout ce qu'on peut avoir à faire. Donc, je répartis en fait mes tâches, les consultations en visio ou en présentiel, l'administratif. Il y a aussi beaucoup de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, le fait de démarcher de nouvelles personnes. Moi, j'adore écrire, donc parfois d'écrire aussi, de faire du réseau. En ce moment, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive quand même. Mais voilà. Et puis, il y a aussi toute une partie qui, pour moi, est absolument primordiale dans ce métier, c'est la supervision. C'est-à-dire d'aller voir une personne qui nous supervise. Donc, en l'occurrence, pour moi, c'est une hypnothérapeute qui est formée depuis 15 ans, qui pratique à Lyon. Et donc, je vais la voir pour me faire superviser, donc c'est-à-dire parler des cas, des personnes où je bloque un petit peu ou parfois même je bloque. Et puis aussi, apprendre, parce qu'être thérapeute, ça s'apprend. Hein. On nous donne pas les clés à l'école. On nous donne les outils, mais pas les clés. Donc, de se faire superviser aussi pour décharger un petit peu parfois des témoignages qui peuvent être extrêmement touchants. Et voilà, donc pouvoir se faire superviser, ce qui colle aussi avec la poursuite des apprentissages, donc c'est-à-dire continuer à se former. Tu vois, là, au mois de mai, je monte à Paris pour amplifier ma formation. Et puis, bien évidemment, lire, préparer les séances, parce que des bonnes séances, parfois, ça se prépare pas, mais parfois, ça se prépare. Donc, si tu veux, je disperse mon temps entre tout ça, pas mal de sport, je suis assez sportive, et puis, ma vie perso, comme nous tous, hein, amis, tout ce que tu peux faire à côté, les courses, le sport, etc. Voilà. Mais il n'y a pas de, à part les journées de consultation au cabinet, où je suis présente, il n'y a pas de semaine vraiment type.
Ok, ça te fait de bonnes journées bien remplies. Du coup, le nom de ce podcast, c'est Le Lien. Pour moi, c'est vraiment important ce côté lien avec d'autres. Et je voulais savoir si toi, est-ce que tu travailles aussi avec d'autres professionnels en collaboration ou...
Bien sûr, bien sûr. J'ai fait le choix d'ailleurs de m'intégrer dans un cabinet pluridisciplinaire, donc où on est quand même pas mal de praticiens, certains à temps complet, d'autres à temps partiel, pour ça en fait, parce que et ton podcast porte très bien ce nom. Et en fait, c'est important pour moi effectivement de travailler avec d'autres professions, déjà parce que on s'enrichit mutuellement. Donc oui, je travaille alors beaucoup avec des psychologues, des psychiatres aussi pour certains patients ou patientes qui sont sous traitement médicamenteux type antidépresseurs, anxiolytiques ou voire même hospitalisation parfois. Et puis de par cette visée d'addiction, je travaille beaucoup avec des addictologues et des infirmiers, notamment au XAPA, donc qui est un centre de soins pour les addictions de l'hôpital de la Croix-Rousse, où j'anime parfois des petites sessions de discussion sur l'addiction avec la psychologue du service, etc. Donc oui, tout à fait. Il y a du lien et il en faut. Il en faut aussi parce que en France, malheureusement, la médecine est trop souvent en opposition avec ce que nous on pratique. Alors qu'il y a, j'aime pas trop le terme alternatif, mais il y a vraiment une complétude,
une complémentarité.
Exact. Entre la médecine et entre ce que nous on peut proposer. Donc je pense que c'est aussi important, de créer du lien en tout cas avec ceux qui sont OK pour le faire, pour que par la suite les choses se démocratisent et qu'on avance dans le bon sens.
Tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Effectivement, avec d'autres thérapeutes de pratiques complémentaires, mais aussi avec des médecins et professionnels de santé, ça me paraît essentiel. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail ?
Je crois que c'est... tu sais, je te disais que quand j'ai monté ce projet, le coach qui m'a accompagnée, qui m'a aidée dans tout ça, que je remercie grandement, un jour m'a fait dire ce qui était important pour moi et quelle était la valeur primaire de ma vie professionnelle. Et je te disais que c'était améliorer le monde. Alors, ça peut paraître hyper too much, mais ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est qu'à mon échelle, j'ai la sensation un petit peu d'améliorer le monde, dans le sens où voir repartir mes patients dans un état qui est complètement autre que celui dans lequel ils sont arrivés, les voir se transformer, je crois que c'est vraiment ça que j'aime le plus dans mon travail. Le fait d'être, peut-être pas tant d'être utile, mais en tout cas de pouvoir redonner confiance, envie, espoir, sérénité à ces quelques personnes qui tapent à la porte et qui me font confiance.
C'est une belle mission de vie. Et en dehors de ton travail, qu'est-ce que tu fais toi dans ton quotidien pour prendre soin de ton bien-être ? Est-ce que tu as des choses que tu aimes particulièrement, que ce soit des petites choses, comme, je sais pas, manger du chocolat ou voir des amis, ou est-ce que toi aussi tu vois d'autres thérapeutes, praticiens, est-ce que tu te fais masser, enfin voilà, des choses que tu fais pour prendre soin de toi.
Alors ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, de vraiment avoir un équilibre de vie. Parfois c'est plus simple, parfois moins, mais oui, je fais beaucoup de choses pour moi, que ça soit j'adore aller me balader en forêt pour m'aérer l'esprit, sans musique, écouter la nature vivre, les branches avec le vent, enfin voilà, ça m'inspire aussi beaucoup pour mes séances d'hypnose. Je pratique beaucoup l'auto-hypnose, parce que cet outil est tellement top que autant l'utiliser aussi sur moi. Et puis je vais en psychothérapie, je continue une psychothérapie à côté parce que je pense qu'on n'a jamais fini de se connaître et fini de grandir. Et puis toujours un suivi pour moi en hypnose, ça m'arrive parfois. Quand je vais voir ma superviseure, de faire une petite séance d'hypnose par-ci par-là pour débloquer les choses, aller mieux, enfin voilà. Et comme je te disais, d'aller en supervision pour lâcher tout ça. Et puis de passer parfois un après-midi entier ou une soirée entière sur Netflix et sans aucune culpabilité, parce que ça, j'ai mis beaucoup de temps à y arriver. Donc, sans culpabiliser de le faire, à me dire, voilà, oh j'ai encore tout ça à faire, faut que je fasse ci, que j'envoie tel mail, que je vois telle personne, etc. Donc, Netflix est devenu un super copain. On s'entend hyper bien depuis le confinement. Et puis, il y a...
j'ai un peu le même copain aussi, ouais.
Ouais, ouais, bah oui. Le confinement a forcément aussi renforcé ça, donc c'est plutôt cool. Et puis oui, écrire, créer. J'assiste à des ateliers de développement personnel. Voilà, voir mes amis, être amoureuse, jouer avec mon chien. Et puis régulièrement quitter Lyon aussi pour aller voir ailleurs, que ça soit au bord de la mer ou à la montagne. Je suis régulièrement à droite à gauche pour me ressourcer. Voilà, donc en tout cas, je pense que c'est très important, tant que c'est possible, d'arriver à prendre du temps pour soi, d'autant plus quand notre métier est de prendre soin des autres.
Oui, je suis d'accord. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial. Je ne pourrais pas ne faire que travailler sans me reposer. Et effectivement, Netflix et autres, ça, de temps en temps, ça fait du bien de juste se poser et un peu rien faire, quoi.
Bien sûr.
Quand on a des journées chargées d'entrepreneurs, de thérapeutes.
Et oui, parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu es thérapeute, tu es commercial, tu es comptable. Enfin, oui, donc il faut aussi... Ça, on nous le dit pas. Tant mais oui, on est quand même multicasquette et parfois, c'est prenant. Donc,
Ouais, c'est une partie que j'aime dans ce métier, mais c'est vrai que c'est prenant aussi.
Parfait, oui.
Et ben on a fait le tour de mes questions. Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée? Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter?
Non, je pense que si les personnes qui entendent ce podcast, en tout cas, se sentent touchées, intéressées, interpellées par ce qui a été dit, qu'elles n'hésitent pas à me contacter via Instagram ou mon numéro de téléphone. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense, pour répondre aux questions et puis surtout créer du lien, ma chère Anne.
Ouais, je mettrai bien toutes tes infos dans la description, effectivement, pour que les gens puissent te contacter. Et ben, merci beaucoup pour tes réponses.
Merci à toi pour ton intérêt, pour ton travail.
Avec plaisir. Et du coup, je te souhaite une belle journée.
À toi, Yann. Salut.
Merci pour votre écoute. J'espère que le podcast vous aura plu. Si vous souhaitez le soutenir, vous pouvez le noter, le partager et me suivre sur Instagram @leLienPodcast. Cela m'aidera à le faire connaître. Et on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode.